Car l'homme ne possède pas cet amour divin, cet amour céleste. Ô Jésus, merci d'avoir répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour l'unité de ton peuple en Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons encore maintenant et nous te donnons toute la gloire. Ces moments aussi, nous les plaçons devant toi. Tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous encourager. Tu veux encore nous faire du bien, Seigneur. Ouvre notre esprit pour que nous soyons attentifs à ta voix. Et dirige toutes choses comme tu le voudras, Seigneur. Comme tu le veux. Pour ta gloire seule. Et le bien de ton peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous nous laisserons conduire encore par le Seigneur pour cet après-midi. Il y a certainement encore des besoins au milieu de nous. J'ai pensé à ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, dans la fin des Évangiles spécialement, quand Jésus est ressuscité. Comme on l'a vu ensemble, il est resté 40 jours avec ses disciples pour fortifier leur foi. Alors certains ont cru à sa résurrection et d'autres avaient plus de peine. Et ce n'est pas parce que certains ont de la peine à croire à sa résurrection ou à sa puissance que Jésus les met de côté. Et c'est pourquoi il a pris beaucoup de temps à s'intéresser plus particulièrement d'un disciple qui s'appelle Thomas. Et au travers de la rencontre de Jésus avec Thomas, nous allons voir un aspect spécial, non pas du caractère de Thomas, mais du caractère de Jésus. Et j'aimerais qu'on voit ensemble la beauté du Christ ressuscité, la beauté morale. Vous savez, il y a des leçons formidables dans la rencontre de Jésus avec Timothée. Avec Thomas. Et il est bon de voir comment le maître l'aborde et comment il a réussi à gagner son cœur. Car dans toute réunion, dans toute convention, certains sont dans le coup et puis il y en a toujours quelques-uns qui ont de la peine, n'est-ce pas vrai? C'est partout comme ça. Mais le Seigneur ne les abandonne pas. Le Seigneur aussi veut communiquer une bénédiction à ceux-là aussi, n'est-ce pas vrai? Et il ne veut pas qu'ils se sentent délaissés ou mis de côté. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il va auprès de chacun. Alléluia. N'est-il pas le bon berger? Il veut bénir chacune de ses brebis. Chacune de ses brebis. Et voyons comment le Seigneur s'est approché de Thomas en lisant ensemble maintenant le passage que nous connaissons tous bien. Jean chapitre 20 à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Voyez-vous, Thomas n'a pas dit, ce n'est pas vrai, je ne crois pas. Il n'a pas dit ça. Il voulait quand même voir le Seigneur. Il n'avait pas fermé la porte de son cœur. Il avait des problèmes, il avait des difficultés, comme nous en avons tous, n'est-ce pas? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Vous vous rendez compte? Si Jésus venait maintenant, vous croyez qu'il va passer par la porte? Il peut le faire, naturellement. Mais il peut venir de ce côté-là. Ou là, il y a un vide, là, il peut venir du côté justement où il y a le vide. Vous auriez peur? Qu'est-ce que vous allez faire? Certains diraient, c'est un fantôme. Il est venu, les portes étaient fermées. Elle se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Voyez-vous, la puissance de la résurrection, c'est toujours une puissance de paix. Un des signes de l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, et n'importe où, c'est la paix. Amen. C'est la paix. La vraie action du Saint-Esprit apporte la paix. L'action du Saint-Esprit peut venir nous troubler, bien sûr, parce qu'on a besoin d'être troublé parfois. Mais son œuvre, à lui, au Saint-Esprit, c'est toujours d'amener la paix. C'est nos réactions qui nous troublent. Mais l'action du Saint-Esprit elle-même ne trouble pas, au contraire, apporte la paix. Une paix profonde. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, et regardez cette confession merveilleuse. Il lui a pas fallu beaucoup aussi pour être convaincu, n'est-ce pas vrai? Comme pour Marie. Mon Seigneur est mon Dieu. Voyez-vous, il a tout de suite accepté. C'est pour dire qu'il y avait un cœur bien disposé. « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. La beauté du Christ ressuscité. Pas seulement la beauté physique. Moi, je crois que Jésus était le plus beau des fils de l'homme. Amen. Alléluia. Comme le péché n'a pas souillé notre maître, il est l'homme parfait. Physiquement, moralement, spirituellement. Amen. Mais en Jésus, il y a plus que la beauté physique. Oui, la beauté physique est là. Mais il y a la beauté morale. Et c'est ce qui a touché l'apôtre Thomas. J'ai noté 5 points ici qui nous révèlent cette beauté. Le premier point est celui-ci. Il nous connaît exactement tel que nous sommes, mais il ne nous condamne pas. Je répète cette pensée. Il nous connaît exactement tel que nous sommes, mais sans nous condamner. Avec les hommes, c'est exactement le contraire qui se passe. Quand vous connaissez quelqu'un un peu trop, la première réaction, c'est la condamnation. Quand vous entrez dans l'intimité de quelqu'un, vous commencez à connaître ses faiblesses. Et en connaissant ses faiblesses, vous commencez à condamner cette personne. Et nous pensons qu'en condamnant la personne, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et encore en plus, on peut dire, le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur m'a montré que. Comme pour bien appuyer que ce qu'on voit, c'est bien vrai. Et que, ça va pas du tout. Autant que je te connaissais pas, tu étais formidable. Mais maintenant que je te connais, tu as perdu. Tu n'as plus autant la même valeur à mes yeux. N'est-ce pas vrai? On a tous cette expérience-là, n'est-ce pas vrai? Moi-même, j'ai eu cette expérience-là. Combien de fois et combien de fois le Seigneur m'a dû m'humilier. Mais avec le Seigneur, c'est exactement le contraire. Voilà un trait de sa beauté morale. Il nous connaît parfaitement et il nous aime encore. N'est-ce pas merveilleux? Et pourtant, il nous connaît, il nous connaît. Il pourrait nous condamner puisqu'il sait tout. Parce que même lorsqu'on connaît quelqu'un dans l'intimité, on ne connaît pas tout. En général, ce qu'on connaît, ce sont des demi-vérités. Et en prenant des demi-vérités, nous tirons des conclusions qui ne sont pas de Dieu. N'est-ce pas vrai? Tandis que Jésus, il nous connaît parfaitement. Il sait le pour et le contre. Il connaît les deux côtés de la médaille. On est à nu devant lui. Personne ne peut se cacher devant le Seigneur. Personne. Et devant un tel être, on pourrait dire, « Seigneur, tu me connais, je ne vaux rien. Certainement que tu ne m'aimes plus. Pierre aussi a passé par là. C'est pas possible. Le Seigneur a vu qui j'étais. Et certainement, il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. C'est pas possible. Après ce que j'ai fait, c'est pas possible. J'ai révélé qui j'étais. Mon mauvais caractère. Et certainement, il ne m'aime plus. Mais lorsque le Christ est ressuscité, il a dit aux apôtres et aux disciples, « Allez, allez vite dire aux apôtres. Et à Pierre. Allez dire aussi à Pierre. » À Pierre, la mention du nom de Pierre prouve que, bien que Pierre ait failli, Jésus l'aimait encore. Alléluia! Jésus connaissait Pierre dans sa faiblesse, dans son reniement, mais il l'aimait encore. Alléluia! Jésus a connu Thomas dans sa faiblesse, dans son dénuement. Mais la conclusion qu'il en tire n'est pas la conclusion que les hommes en tirent. Il l'aimait encore. Je crois qu'il y a là une première vérité, un beau trait de son caractère, n'est-ce pas, qui est totalement différent du caractère des hommes, de mon cœur mauvais, de votre cœur aussi qui parfois réagit négativement. C'est pourquoi ne pensez pas, parce que vous avez failli dans un domaine, que le Seigneur vous rejette. Il vous aime encore. Voyez-vous, le Seigneur s'approche de nous, non pas comme un gendarme s'approche du voleur. Pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression que quand on a fait une faute, le Seigneur est comme un gendarme, et nous, comme le voleur. Alors un gendarme, qu'est-ce qu'on va y faire avec le voleur, quand il le voit? Et la première chose, les notes. Allez, maintenant, en taule. Ah, excusez-moi, en prison. En prison. En prison. Voyez-vous, le gendarme a vu le mal, mais il a mis le mal et la personne tout en prison, tout en même temps. Il en a fait tout un même paquet. Et il le met en prison, est-ce qu'il le délivre pour autant? Vous le savez comme bien, comme moi. Bien sûr, il faut le mettre en prison s'il a mal fait, d'accord. Mais je ne veux pas dire par là que ça va changer ce voleur, pas du tout. Voyez-vous, Dieu n'agit pas comme cela. Il n'agit pas comme un gendarme qui attrape un voleur et qui dit « Maintenant, tu as mal fait, allez en prison. » Et beaucoup d'entre nous, nous pensons que Jésus agit comme ça. Mais il y a une autre image. Quand nous avons fait une faute, Jésus agit comme un médecin avec son patient. C'est tout à fait l'opposé. J'ai mon beau-frère médecin ici. Alors il pourra nous faire, lui-même, nous faire une belle conférence là-dessus. Comment est-ce qu'il s'approche de ces malades? Comment? Vous m'avez appelé? Vous avez telle maladie, vous savez? Oh, mais je vois encore que... Votre cœur aussi, ça va pas du tout. Puis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va... Mais ça va pas du tout, pas du tout, pas du tout! Ah non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Au revoir, hein, maintenant, au revoir! Je m'en vais! Est-ce qu'un médecin fait comme ça? Je pense qu'il n'a jamais fait comme ça, qu'il ne le fera jamais. Mais comment s'approche un médecin? Il voit la maladie, il voit le mal, mais il ne s'approche pas comme le gendarme s'approche du mal, pour condamner, pour rendre esclave, mais le médecin s'approche du mal, non pas dans le but de condamner, mais dans le but de le guérir et de le délivrer. Amen. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Quand il nous pointe du doigt, ce n'est pas pour nous condamner. Bien sûr, quand il y a quelque chose à reprendre, il faut qu'il nous reprenne, vous êtes d'accord avec moi? Si le médecin vient chez vous et qu'il vous dit, voilà, il y a ça et ça qui ne va pas, il ne faut pas être stupide pour dire, non, il n'y a rien du tout. Hein. Il y en a qui veulent des docteurs qui ne disent jamais la vérité. Et ça ne va pas du tout. Et 15 jours après, vous mourrez. Non. Il faut aussi avoir le courage de reconnaître ce qui ne va pas. Et c'est dans la mesure où l'on reconnaît ce qui ne va pas que le Seigneur peut nous guérir et nous délivrer. Comment Jésus s'est-il approché de Thomas comme un médecin s'approche de son malade? Oui, je vois que tu as des problèmes, Thomas. Mais je ne suis pas venu ici pour te condamner, mais pour te guérir. Je ne suis pas ici pour te mettre en prison. Tu es déjà en prison. Tu es déjà en prison à cause de ton incrédulité. Tu es déjà en prison. Alors je ne viens pas pour te mettre en prison. Mais je suis venu pour te sortir de ta prison. Parce que je t'aime. Et comme un médecin n'a qu'un but d'amener la guérison, le Seigneur Jésus n'a qu'un but, c'est d'amener la délivrance. Alléluia. Malheureusement, certaines personnes n'ont qu'un message négatif. Ils ne voient que le mal. Et ils vous laissent les personnes tout à fait dans la dépression finalement. À quoi ça sert de dire, voilà, ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas, si nous n'avons pas la capacité d'apporter un remède? Le Saint-Esprit n'agit jamais comme cela. C'est très facile de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour apporter un remède, pour prier, pour faire en sorte que ça marche. Là, il faut être rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Voilà comment le maître s'est approché. Quelle beauté! Je crois que ça a dû toucher Thomas déjà. Vous ne trouvez pas? Parce qu'il a dû peut-être le voir arriver avec la tête baissée. Il s'est dit, est-ce qu'il m'aime encore, quoi, celui-là? Comment il va me regarder d'abord? Ah. Alors, je ne sais pas comment il a dû. Oh là, mais il est encore plus formidable qu'avant. Oh, ah, mais il a un regard encore plus extraordinaire. Mais, au contraire, loin de fuir son regard, il a vu dans le regard de Jésus quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Alléluia. Oh, si nous savions combien il nous aime. Son seul but, comme un médecin, il veut nous guérir. Mais il voulait être guéri, Thomas, il voulait être guéri. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas fermé son cœur et dit « Non, c'est terminé, moi je ne veux rien savoir, je ne crois pas, et c'est terminé. » Non, 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 non. Thomas n'était pas comme cela. Il avait ses problèmes, mais il était sincère, il était ouvert. Et plus il voyait le Seigneur Jésus dans un regard qui était là pour l'aider, pour l'en sortir, alors il s'ouvrait à lui. Amen. Alléluia. C'est comme cela que nous pourrons aussi aider les autres. Vous qui êtes là, qui repartez, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir été béni comme il le faudrait. Ne pensez pas que Jésus vous rejette, il est là, il vous aime encore. Amen. Et il s'approche de vous, et il veut que vous puissiez voir son regard d'amour. Alléluia, il vous aime encore, tel que vous êtes, tel que vous êtes. Et il veut vous guérir, spirituellement, moralement. Il veut intervenir dans le fond de votre cœur. Ne l'oubliez jamais. Jésus est contre le péché, mais il est pour le pécheur. Jésus est contre la maladie, mais il est pour le malade. Ne l'oublions jamais cela. Donc, un premier aspect de cette beauté. Thomas ne s'est pas senti condamné ou être mis en prison par Jésus comme quelqu'un, un gendarme qui lui saute dessus. Mais il a vu Jésus s'approcher comme un médecin. N'est-ce pas merveilleux? Jésus s'approche de vous comme un médecin. Alléluia. Il n'a qu'un but, la guérison, la délivrance. Alléluia. Il vous aime. Il sait qui vous êtes. Mais il veut vous aider. Il veut vous aider. Alléluia. Un deuxième aspect de cette beauté maintenant. Il s'approche d'abord vers celui qui est dans le besoin. Quand Jésus est venu, la première personne à laquelle il s'est adressé, c'était Thomas. On a l'impression que Jésus est venu là spécialement pour Thomas. Il y a là un autre aspect de la beauté de Jésus. Il s'approche d'abord de ceux qui sont dans le besoin. Et je suis sûr que si nos besoins étaient réels et profonds, nous verrions davantage le Seigneur venir près de nous. Amen. Nous avons parfois beaucoup de désirs, mais pas assez de besoins. On désire bien que Dieu nous bénisse. On désire bien avoir une bénédiction. On le désire. Mais s'il ne nous bénit pas, tant pis. Voyez-vous, on peut se passer même de la bénédiction du Seigneur. Ça ne fait rien. S'il me bénit, tant mieux. S'il ne me bénit pas, ça ne fait rien. On est rempli de désirs. Mais être rempli de désirs ne suffit pas. Il faut être rempli de besoins. Il faut avoir ce besoin ardent de rencontrer le Seigneur. Et la parole de Dieu nous montre à combien d'endroits que tous ceux qui avaient des besoins réels, Dieu a pourvu à ces besoins. Alléluia! L'apôtre Paul lui-même le dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Notre problème, c'est que nous n'avons pas assez de besoins. Pas assez de besoins. On a beaucoup de désirs, mais pas assez de besoins. C'est-à-dire que le désir est limité. Bon, ben, on cherche un petit peu, mais si ça ne va pas comme on le voudrait, si Dieu n'exauce pas tout de suite notre prière, voyez-vous, c'est comme ça. On a prié pour moi, si je ne suis pas guéri tout de suite, alors on en va tout promener. On dit, tu avais simplement le désir d'être guéri, c'est tout. Ou le désir d'être béni. Et puis parce que ça ne s'est pas passé tout de suite, on va tout promener. Tu commences déjà à te fâcher. Et tu dis, ça n'y a rien, ça vaut rien, tout cela. Ah bon, tu crois que c'est comme ça que ça marche? Jésus a promis de répondre à nos besoins, pas à nos désirs. Si tu t'arrêtes tout de suite, c'est que finalement, tu n'as pas un profond besoin dans ton cœur, ce n'est qu'un désir. Et Dieu n'a pas promis de répondre à nos désirs superficiels, mais à nos besoins. Alléluia! À nos besoins. Oh Seigneur, quand on a un besoin, alors plus rien ne peut nous arrêter, n'est-ce pas vrai? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alléluia! Faim et soif de justice. Faim et soif de justice. Faim et soif. Si nous avons faim et soif de justice, alors nous serons rassasiés. Alléluia! Faim et soif, faim et soif. Voilà pourquoi parfois certains reçoivent et d'autres ne reçoivent pas. Parce que les uns ont un profond besoin. Et ils disent comme Jacob, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Alléluia. Cette vérité est très importante. Et Thomas avait ce besoin, un besoin ardent. As-tu réellement besoin de ce que tu demandes, de ce que tu recherches? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Si tu t'es arrêté, c'est peut-être parce que ce n'était qu'un désir. Mais si c'est un besoin, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Aucun homme ne peut t'arrêter jusqu'à ce que tu obtiennes la bénédiction du Seigneur. Si on t'arrête, c'est qu'il vaut mieux que tu t'arrêtes tout de suite. Parce que tu n'as rien du tout. Si on arrive à vous arrêter, arrêtez-vous tout de suite. Si une moindre parole, une moindre attitude, la moindre réaction de l'un ou de l'autre vous arrête, c'est qu'il n'y a que des désirs dans votre cœur. Vous êtes plein de bons désirs, mais pas de besoins. Il s'approche d'abord vers celui qui a des besoins. Alléluia. Seigneur, je veux ta bénédiction à tout prix. À tout prix. Je veux savoir si tu es ressuscité. C'était le cœur de Thomas, le désir de Thomas. Et Dieu s'est révélé à lui. Je le veux. Veux-tu être guéri? Disait le Seigneur à un malade, le veux-tu vraiment? Ce que tu demandes, est-ce que tu as vraiment décidé de l'obtenir? Si c'est en accord avec la parole de Dieu, réalise d'abord si c'est en accord avec la parole de Dieu ce que tu demandes. Et quand tu sais que c'est en accord avec la parole de Dieu, alors que rien ne t'arrête. Alléluia. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Alléluia. Quand j'ai eu la première fois écho de la vérité du baptême dans le Saint-Esprit, ma première réaction a été « Oh ! Moi, j'ai tout reçu à ma conversion. » Alors, je ne voulais rien savoir de ces choses. Ma tête disait que j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais rempli du Saint-Esprit, si vous voulez, doctrinalement, et j'étais vide pratiquement. Vous savez qu'il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit doctrinalement. Mais c'est pas suffisant d'être rempli du Saint-Esprit doctrinalement. Vous pouvez avoir une doctrine de la plénitude, mais totalement vide. C'est pas être, avoir une doctrine de la plénitude, donc doctrinalement qu'il faut, c'est être rempli expérimentalement. Alléluia. Ma tête disait, Sam, tu as tout reçu, et mon cœur disait, tu n'as rien du tout. C'est bien beau, tu dis que tu as tout reçu, mais moi aussi, je meurs de faim, je meurs de soif, le cœur disait. Je meurs. N'essaye pas de... À un tel régime, tu vas mourir. Donne-moi à manger un petit peu, c'est pas possible. Alors, il y a eu ce combat entre l'intellect qui dit, nous avons tout, et le cœur qui dit, je n'ai rien. Alors, qui va l'emporter, l'intellect ou le cœur? J'ai eu le combat pendant quelques temps, et Dieu m'a fait la grâce d'abdiquer. Dieu, Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais je vous assure, même pour le baptême dans le Saint-Esprit, alors là, rien, personne ne pouvait m'arrêter. Personne, jusqu'à ce que Dieu le fasse. Personne! Si on vous arrête, arrêtez-vous tout de suite. Vous n'avez rien du tout dans votre ventre. Excusez-moi. Dans votre cœur. On n'a pas pu arrêter les premiers chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? Je ne vais pas les arrêter. Ils couraient tellement vite que tout le monde était soufflé derrière eux. Ceux-là, on ne peut pas les arrêter. Ah, là où il y a un besoin, veux-tu vraiment t'en sortir? Veux-tu vraiment que ça change? Je ne sais pas quels sont vos besoins, n'est-ce pas? Là, je parle du baptême Saint-Esprit, mais ça peut être autre chose, la guérison, une bénédiction dans la famille, par exemple, que de problèmes dans les familles maintenant, n'est-ce pas? On pourrait faire toute une convention sur la famille. Toute une convention sur la famille. Alors il y avait besoin dans tous les domaines. L'important est de dire, Seigneur, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Je ne te laisserai pas. Et ce sont ces personnes-là qui obtiennent la bénédiction. Mais si on vous arrête, alors arrêtez-vous tout de suite. Troisièmement, la troisième beauté du Seigneur, il est plein de patience, soulignez patience, avec le douteur sincère. Vous pouvez souligner sincère aussi. Il est plein de patience envers le douteur sincère. Pourquoi est-ce que je dis sincère? Parce qu'il y a aussi le douteur professionnel. Et je vais vous dire quelle est la différence entre le douteur professionnel, ça y est, les douteurs professionnels, c'est leur profession. Et puis il y a le douteur sincère. Alors, comment résonne ou réagit le douteur professionnel? Le douteur professionnel, c'est celui-ci. Même s'il voit un miracle, il n'y croit pas. Rien, il est décidé à ne pas croire. Un mort ressuscite, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'était pas mort. Il était dans le coma, voyons. Il était dans le coma. Il y a des personnes qui peuvent rester des mois dans le coma, n'est-ce pas vrai? Alors ils vous diront, il était dans le coma. Même si les médecins disent qu'il était mort cliniquement, il était dans le coma. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas croire à la puissance de Dieu. Malgré toutes les apparences contraires, malgré les évidences, c'est un homme qui a décidé de ne pas croire. Alors une personne comme cela, vous ne pouvez pas l'aider, le Seigneur non plus ne peut rien, parce qu'il ne force personne. Mais Thomas n'était pas comme cela, c'est un douteur sincère. Il dit, mais je comprends rien, mais j'aimerais croire. J'aimerais, aide-moi Seigneur, tu vois bien. Dans mon cœur, il n'y a pas de cette résistance. Ça me dépasse, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais aide-moi Seigneur. Et quand on est dans cet état-là, eh bien Dieu nous aide. Notre frère là, qui a rendu témoignage hier soir, il a dit, on peut même me couper la tête que ce que j'ai expérimenté, eh bien je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu, eh bien personne ne peut le lui enlever. Mais il était sincère, il a mis Dieu à l'épreuve. Il a dit, Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais fais quelque chose. Combien de fois Dieu a exaucé cette prière à des païens, par exemple? Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Montre-moi ta puissance. Montre-moi. Tu vois, je ne crois pas en toi. Je ne sais rien du tout. Je ne crois pas. Mais montre-moi si tu existes. Voyez-vous, même des païens ont vu la révélation, la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que, au-delà de ce vernis apparent d'incrédulité, même de haine et d'opposition, il y a un cœur sincère. C'est pourquoi moi, je ne me laisse pas influencer par l'apparence des gens. Très souvent, même ces réactions prouvent un cœur qui crie, qui cherche. C'est pourquoi ne jugez pas d'après les apparences, chers amis, ne jugez pas. C'est pas parce que quelqu'un ne dit rien ou ceci ou cela que cette personne n'a pas soif, ce n'est pas vrai. Ne jugez jamais d'après les apparences, car au fond du cœur, il peut y avoir quelqu'un qui a faim et soif, qui cherche réellement. C'est un douteur sincère.
La face 1 est terminée. Veuillez tourner la cassette, s'il vous plaît.
Il sera aidé que ceux qui ont un esprit qui veut aider. Et si vous vous approchez de ces personnes en les condamnant, vous ne les aiderez jamais, jamais, jamais. Et que de fautes on fait dans ce domaine-là, que de fautes. On est là, on s'approche uniquement pour condamner. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, attention, pas du tout. Mais cela veut dire que ce qu'on dit, on doit le dire dans un esprit positif. Dans un esprit de guérison, de délivrance. Alléluia! Voilà, comme un médecin s'approche de son malade, pensez bien. Voilà, il vient pour guérir. Et il peut dire même les maladies les plus graves. Mais il veut aider. Et cette parole sera toujours acceptée. Un douteur sincère. Voilà ce que Thomas était, mais il est plein de patience avec eux. Plein de patience. Alléluia. Nous, souvent, on est plus durs que notre maître. Vous ne trouvez pas? Ah oui, on est parfois loin de ressembler à notre maître. Loin d'avoir son attitude. Bien souvent, on condamne les autres, alors que c'est nous qui devrions être pris. Oui, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas sur l'autre, d'accord? Mais et toi? Quelqu'un a dit un jour, quand tu pointes du doigt l'autre, il y en a trois contre toi. Non. C'est dans un esprit de positif que nous devons aborder. Et il est patient, il est patient. Ensuite, quatrièmement, il est seul, lui, capable de guérir nos doutes. Écoutez bien, ceci est important. Est-ce que Jésus est venu faire un discours avec lui? Voyez-vous? Le problème de Thomas n'était pas un problème de la tête, c'était un problème du cœur. Et bien souvent, nous discutons à un mauvais niveau. Très souvent, le problème n'est pas ici, le problème est là. C'est une question de cœur. Et si vous passez tout votre temps à discuter, vous n'arriverez à rien du tout. Quand deux têtes se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Bang, bang, bang. Mais quand deux cœurs se rencontrent, alléluia, il y a une chaleur. Alléluia. Mais quand deux têtes se rencontrent, c'est l'explosion. Ah, je sais ce que je dis aussi. Je suis passé par là. Chaque fois que j'ai voulu discuter, j'ai fait les plus tristes expériences. Et combien de fois le Seigneur m'a repris? C'est pourquoi j'ai bien compris la leçon que Paul donnait à Timothée. Évite les discussions folles et inutiles qui ne font qu'engendrer des querelles. Évite, évite. Si vous voulez garder votre bénédiction, chers amis, écoutez-moi bien, vous avez été bénis. Bon, j'espère que tous vous avez été bénis d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous donner un petit conseil. Ne discutez pas. Ne discutez pas. N'essayez pas de convaincre les autres de votre bénédiction. N'essayez pas de discuter. N'essayez pas de discuter, sinon vous allez perdre votre onction et votre bénédiction. Vous pouvez discuter en sortant même de cette réunion et en arrivant à la maison, être aussi vite que lorsque vous êtes venu. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela. Je vous en supplie, veillez à cela, veillez à cela.